De Henri de Clest, à Paris, en 1832, la fête Dieu ou le pouvoir de la musique. Après quelques jours passés à converser sur les événements remarquables qui venaient d'avoir lieu dans les Pays-Bas, nos quatre frères, ayant appris que les nonnes du couvent de Sainte-Cécile, situées aux portes de la ville, se disposaient à célébrer la fête Dieu, échauffés par le fanatisme, par la jeunesse et par l'exemple, résolurent de donner à la ville d'Akène le spectacle d'un iconoclaste. Le prédicateur, qui avait déjà conduit plus d'une entreprise semblable, réunit le soir, avant ce grand jour, un nombre considérable de jeunes protestants de tous les états, avec lesquels il passa la nuit à boire, à manger et à maudire le papisme. Lorsque le jour commença à paraître sur les créneaux de la ville, ils s'armèrent de haches et de toutes sortes d'autres instruments destructeurs, puis sortirent pour exécuter leur projet inique, après être convenus d'un signal auquel ils devaient commencer à jeter des pierres contre les vitraux de l'église représentant les saintes figures de la Bible et ensuite poursuivre leur ouvrage jusqu'à ce qu'il ne restât pas une pierre de la cathédrale à sa place. L'abbesse, ayant été avertie dès le point du jour par un ami du danger qui menaçait l'église, envoya prier l'officier de l'Empire qui commandait la ville de lui accorder une garde pour le moment de la cérémonie. Mais celui-ci, ennemi du papisme et déjà voué en secret à la nouvelle croyance, la lui refusa, sous le prétexte qu'elle se créait des fantômes et que son couvent ne courait pas l'ombre d'un danger. À l'heure où devait commencer la solennité, les nonnes se rendirent à la messe, tremblantes et saisies de crainte. Elles n'étaient protégées que par le sacristain septuagénaire qui gardait les avenues de l'église avec quelques bedeaux armés. Les nonnes de ce couvent étaient alors renommées pour le tact, le sentiment et la précision avec lesquelles elles jouaient de toutes sortes d'instruments. L'abbesse avait ordonné que l'on jouât une messe très remarquable d'un maître italien inconnu qui avait produit une grande sensation toutes les fois qu'on l'avait exécutée dans quelque solennité. Mais par malheur, la sœur Antonie, qui devait diriger l'orchestre, tomba malade. Elle fit dire à l'abbesse qu'elle ignorait complètement ce qu'était devenue la messe italienne et qu'il ne fallait point compter sur sa direction pour l'exécution de ce jour. Cependant, les sacrilèges de tous les âges et de tous les états s'étant réunis dans l'église avaient déjà attaqué de la manière la plus grossière les bedeaux qui gardaient les avenues et s'étaient permis les provocations les plus indécentes contre les sœurs qui allaient et venaient, tout occupées de leurs saintes affaires. Le sacristain, témoin de toutes ces choses, entra dans la sacristie et conjura à genoux l'abbesse d'ajourner la fête et d'aller à la ville se mettre sous la protection du commandant. Mais l'abbesse resta inébranlable, soutenant que la fête ordonnée pour la gloire de Dieu ne devait souffrir aucun délai. Elle lui rappela son devoir qui était de maintenir l'ordre pendant la messe et la procession solennelle qui devait avoir lieu dans l'église. Puis elle ordonna aux nonnes de choisir un oratorio, quel qu'il fût, et de commencer aussitôt. Les nonnes, tremblantes d'effroi, se placèrent à la galerie de l'orgue et se mirent à accorder les basses, les violons et les hautbois, lorsque l'on vit tout à coup paraître sœur Antonie, fraîche et bien portante, mais un peu pâle, tenant sous le bras la partition de l'ancienne messe italienne dont l'abbesse avait tant désiré l'exécution. Elle ne répondit aux questions des nonnes, toute surprise de la voir sitôt rétablie, qu'en leur imposant silence. Et distribuant les parties à celles qui se trouvaient auprès d'elle, elle s'assit à l'orgue, brûlante d'inspiration, pour diriger ce chef-d'œuvre musical. Alors toutes les saintes filles sentirent leur cœur plein d'une céleste consolation, et le saisissement même qu'elles éprouvaient transporta leur âme comme sur des ailes dans les régions célestes de l'harmonie. L'oratorio fut conduit avec un talent admirable, et pendant toute sa durée, le plus profond silence régna dans l'église. On eût dit que les assistants étaient morts. Les frères sacrilèges et leurs alliés ne touchèrent pas même à la poussière des murs du couvent qui, à la fin de la guerre de 30 ans, fut sécularisé en vertu d'un article de la paix de Westphalie. 6 ans après cet événement qui était dès longtemps oublié, la mère des 4 jeunes gens quitta Hague, où elle vivait, pour venir à Aachen chercher quelques renseignements sur ses fils. Les dernières nouvelles qu'elle en avait eues étaient contenues dans une lettre écrite le soir même avant la fête Dieu par le prédicateur à son ami le maître d'école d'Anverpen. Il y parlait avec beaucoup de gaieté et d'indifférence de l'entreprise formée contre le couvent Sainte-Cécile. La pauvre femme n'en savait pas davantage. Après beaucoup de recherches inutiles, on se souvint enfin que quelques années auparavant, et précisément à l'époque de la date de cette lettre, 4 jeunes étrangers, dont on ignorait le nom et la patrie, avaient été enfermés à la maison des fous établie dernièrement dans la ville par l'empereur, et que leur folie semblait avoir été causée par l'exaltation religieuse. Tout cela ressemblait trop peu à ce que la pauvre mère connaissait de l'humeur de ses fils pour qu'elle pût croire qu'ils fussent les individus dont on lui parlait, surtout lorsque le magistrat eut ajouté qu'ils étaient catholiques romains. Cependant, après s'être fait décrire leur personne, elle se rendit tout inquiète à la maison des fous et demanda au directeur de vouloir bien lui permettre de voir les 4 infortunés, privés de raison, qui étaient commis à leurs soins. Mais qui pourrait décrire l'effroi dont elle fut saisie lorsqu'approchant de la porte, elle reconnut ses 4 fils. Ils étaient vêtus de longs talars noirs et assis devant une table sur laquelle était un crucifix, appuyés sur leurs mains dans l'attitude de la prière. Cette femme, perdant la force de se soutenir, se laissa tomber sur une chaise en demandant au directeur ce que faisaient là ses fils. Ils lui répondirent qu'ils ne s'occupaient plus que de la gloire de Dieu et de leur Sauveur, que depuis 6 ans qu'ils menaient cette vie spirituelle, ils dormaient peu, mangeaient rarement et ne parlaient jamais, qu'ils ne se levaient de leur siège qu'à l'heure de minuit et qu'alors ils entonnaient, avec des accents qui faisaient vibrer toutes les fenêtres de la maison, le Gloria in excelsis. Ils ajoutèrent que ces jeunes gens se portaient parfaitement bien de corps et qu'ils avaient même une sorte de sérénité sérieuse et solennelle. La pauvre mère, ne pouvant supporter la vue de ces infortunés, s'éloigna toute tremblante de cette maison. Elle se rendit le lendemain, pour consulter sur cette découverte, chez un monsieur Wettgotelf, célèbre marchand de draps de la ville d'Aachen, qui était nommé dans la lettre du prédicateur à son ami comme un de ceux qui avaient pris le plus de part au projet contre le couvent de Sainte-Cécile. Wettgotelf, qui depuis lors s'était marié, avait eu plusieurs enfants et avait succédé à son père dans son riche commerce, reçut l'étrangère avec bienveillance. Et après lui avoir fait promettre de ne point le nommer dans les recherches qu'elle ferait sur cette aventure, il lui parla en ces termes. « Je vous avoue que je m'unis, il y a 6 ans, avec vos fils pour l'exécution du projet que la lettre indique. Après avoir tout préparé avec la plus grande adresse, la chose échoua sans que j'aie jamais pu comprendre pourquoi. » Le ciel lui-même sembla avoir pris sous sa protection le couvent de ses saintes filles. Vos fils, après avoir commencé à troubler le service par des plaisanteries, n'attendaient plus, ainsi que les 300 bandits armés de haches et de bâtons qui remplissaient l'église, que le signal du prédicateur pour réduire tout en poudre. Lorsque la musique, retentissant sous les voûtes de la cathédrale, vint jeter le trouble dans leur cœur. Ils ôtèrent leur chapeau avec respect et de temps en temps on les voyait cacher leur visage dans leurs mains avec la plus grande émotion. Après une pause touchante, le prédicateur, se tournant vers nous ordonna à tous, d'une voix de tonnerre, de nous découvrir la tête. Ce fut en vain que quelques-uns des nôtres lui chuchotèrent à l'oreille que c'était le moment de donner le signal de l'iconoclaste. Le prédicateur, sans répondre, se jeta à genoux et, faisant sur sa poitrine le signe de la croix, il se mit, ainsi que ses frères, en se frappant le front avec ferveur contre terre, à réciter toute la série des prières qui, peu d'instants auparavant, avaient été l'objet de ses railleries. À ce spectacle, la troupe fanatique, se sentant privée de son chef, resta dans l'indécision et l'inaction jusqu'à la fin du sublime oratorio. Puis, effrayée par les arrestations que le commandant avait fait exécuter de quelques-uns de ses membres, elle ne vit rien de mieux à faire que de s'éloigner aussitôt de la maison de Dieu. Le soir, après avoir demandé plusieurs fois vos fils à leur auberge, où ils n'étaient point rentrés, je retournai plein d'inquiétude avec quelques amis à l'église pour m'informer d'eux à la garde que l'on avait placée autour du cloître. Mais comment vous exprimer mon saisissement lorsque je vis vos quatre fils agenouillés devant l'autel, dans la même attitude que le matin, les mains jointes et le front dans la poussière, semblables à quatre figures de marbre. En vain le sacristain qui était entré avec nous les pria de vouloir bien sortir de l'église, qui commençait à devenir sombre, et les tira par leur manteau. Plongés dans une sorte de rêverie, ils ne l'entendaient point et ne se levèrent que lorsque deux valets vinrent les prendre par les bras et les conduisirent hors du portail. Ils nous suivirent à la ville en poussant de profonds soupirs et en regardant sans cesse derrière eux la cathédrale qui brillait éclairée par les derniers rayons du soleil. Pendant ce trajet, nous leur demandâmes à plusieurs reprises ce qui les avait effrayés et ce qui pouvait avoir eu tant d'influence sur leur cœur. Mais pour toute réponse, ils nous serraient la main affectueusement et essuyaient les larmes qui coulaient de leurs yeux. Arrivés à leur hôtel, ils se construisirent une croix en bois de bouleau et la placèrent sur un petit tas de linge entre deux chandelles sur la grande table qui était dans leur chambre, puis, sans prendre garde à la troupe de leurs amis qui les entouraient, ils s'assirent devant la table et se mirent à prier. À l'heure du souper, l'hôte les força à prendre place au joyeux banquet qu'ils assaisonnèrent de larmes amères. Puis, minuit ayant sonné, vos filles se levèrent tout à coup de leur siège, et pendant que nous posions nos serviettes et que nous attendions dans l'inquiétude ce qu'ils allaient faire, ils entonnèrent, avec les accents de voix les plus horribles, le Gloria in excelsis. C'est ainsi que doivent hurler les loups et les léopards que la faim a rendu furieux. Les piliers de la maison en furent ébranlés et les fenêtres, frappées de ces accents formidables, tremblaient et retentissaient comme si l'on eût jeté des poignées de sable contre leurs vitraux. À cette horrible musique, nos cheveux se dressèrent sur nos têtes et nous nous précipitâmes dans la rue, qui fut bientôt pleine de plus de 100 personnes que ces hurlements affreux avaient arrachés au sommeil. Le peuple, pénétrant dans l'hôtel, s'introduisit jusque dans la salle pour y chercher la source de ce bruit infernal qui semblait sortir des lèvres des damnés et s'élever du fond des enfers vers le Dieu du ciel. Enfin, au coup d'une heure, sans avoir pris garde à la colère de l'hôte ni aux cris de la foule qui les entourait, ils fermèrent la bouche et essuyèrent la sueur qui coulait à grosses gouttes de leur front. Puis, étendant leur manteau par terre, ils se couchèrent pour se reposer d'une si pénible tâche. L'hôte, qui voulait sauver ses malheureux, engagea le peuple à s'éloigner en l'assurant que la nuit amènerait un heureux changement dans leur situation. Mais, hélas, au premier chant du coq, les infortunés se levèrent pour recommencer devant leur croix la même vie de cloître. Ils ne voulurent accepter de l'hôte dont le cœur était navré de douleur à leur aspect, ni représentation, ni secours. Ils lui demandèrent seulement de permettre que leurs amis les visitassent chaque matin, et ils ne voulurent rien recevoir de ceux-ci que du pain, de l'eau et un peu de paille pour passer la nuit. Alors l'hôte se vit forcé d'instruire la police de tout cela et de la prier de le débarrasser de ces quatre jeunes gens qui, sans doute, avaient été saisis du malin esprit. Ils furent visités par un médecin, déclarés fous, et enfermés sur l'ordre des magistrats dans la maison que le dernier empereur a fondée dans les murs de notre ville pour le soulagement de cette sorte d'infortunés. C'est ainsi que parle Avette, le marchand de draps. Puis il dit encore plusieurs choses que nous nous dispensons de transcrire, les trouvant inutiles à la clarté de notre histoire. 3 jours après, la pauvre femme, ayant été très ébranlée de ce récit, désira aller voir les lieux où ses fils avaient été frappés par la colère céleste. Elle se rendit avec une amie dans les environs de l'église, mais comme elle était en réparation et entourée de planches, elle ne put en apercevoir que le dôme. Un grand nombre d'ouvriers chantaient gaiement en s'occupant à élever la tour d'un tiers de plus et à garnir d'un cuivre brillant les toits et les créneaux qui, jusque-là, avaient été couverts d'ardoises. Un sombre nuage, dont les bords étaient éclairés par le soleil couchant, après avoir promené le tonnerre sur la ville d'Akène, vint jeter de faibles éclairs contre les sommités du dôme, puis, se réduisant en vapeur, il s'enfuit à l'est en murmurant. Pendant que les deux femmes considéraient ce double spectacle, une sœur sortit du couvent et vint prier la néerlandaise de vouloir bien se rendre à l'invitation de l'abbesse qui désirait lui parler. La bonne femme, quoiqu'un peu embarrassée, ne laissa pas que de se rendre humblement à l'ordre qu'on lui communiquait, et pendant que, sur l'invitation de la nonne, son amie entrait dans une salle basse, on lui ouvrit l'escalier de la tour qui menait dans une belle galerie peinte. Elle y trouva l'abbesse, dont la tenue avait quelque chose de majestueux, assise sur une chaise à côté d'un pupitre où se trouvait une partition. L'abbesse, après avoir ordonné à l'étrangère de s'asseoir, lui dit qu'elle avait été avertie de son arrivée à Akène par le bourgmestre, et après l'avoir questionnée sur l'état de ses fils avec beaucoup de bonté et d'intérêt, lui avoua le désir qu'elle avait de lire la lettre du prédicateur. La bonne femme, qui possédait assez d'expérience pour comprendre quelles pourraient être les suites de cette démarche, hésita un instant. Puis, vaincue par l'aspect vénérable de l'abbesse qui inspirait la confiance, elle sortit la lettre de son sein et la lui remit en couvrant ses mains de baisers. Pendant que l'abbesse lisait, la bonne femme jeta un regard sur la partition et, se rappelant ce que lui avait dit le marchand de draps, elle pensait que ce pouvaient bien être là les notes merveilleuses qui avaient troublé l'esprit de ses enfants. Elle demanda timidement à la sœur qui se tenait derrière sa chaise si c'était l'oratorio qui avait été chanté le jour de la fête Dieu, 6 ans auparavant, dans la cathédrale. La sœur lui ayant répondu affirmativement, elle se leva très effrayée et se plaça devant le pupitre, agitée de divers sentiments confus. Elle examina ces signes enchantés qui semblaient être pleins d'un esprit mystérieux, et elle pensa tomber par terre lorsqu'elle y reconnut le Gloria in excelsis. Il lui sembla que les sons formidables qui avaient frappé ses fils venaient résonner de la même manière dans toute sa tête, et pleine d'humilité pour la volonté de Dieu, elle pressa contre ses lèvres la feuille sacrée. L'abbesse, ayant achevé de lire la lettre, dit en joignant les mains. Dieu lui-même a protégé le cloître contre la fureur de vos fils égarés. Dans ce jour mémorable, le moyen qu'il a employé est miraculeux. Ce n'est point sœur Antonie qui dirigea l'orchestre sur la galerie de l'orgue. Pendant toute la cérémonie, elle resta couchée dans sa cellule, faible et impotente. L'archevêque de Tyr, à qui j'ai fait part de cet événement, a déclaré que sainte Cécile elle-même avait conduit l'oratorio, et j'ai reçu du pape un bref qui le confirme. Puis rendant la lettre à la bonne femme, elle l'assura qu'elle n'avait eu d'autre désir en la lui demandant que de connaître les détails de ce projet impie. Elle lui offrit de l'argent et les autres secours dont elle pouvait avoir besoin pour tenter la guérison de ses fils. Et après avoir serré la main de l'étrangère, qui refusa ses offres en pleurant et en baisant ses genoux, elle la congédia. Ici finit la légende. La femme, dont la présence était inutile à Akhen, retourna à Hague avec un petit capital que les magistrats lui accordèrent pour remplacer les secours que ses fils ne pouvaient plus lui donner. Quelques années après, elle rentra dans le sein de l'Église romaine. Ses fils moururent dans un âge avancé, d'une mort douce et heureuse, après avoir chanté encore une fois, selon leur habitude, le Gloria in excelsis.